48 FM.
Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service.
J'appuie sur envoi. Voilà, pour s'arrêter déjeuner, nous avons le choix entre une auberge, un restaurant 3 étoiles et un relais gastronomique.
Ce n'est pas la peine que je fasse des sandwichs.
Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS.
48 FM vous fait vivre les 4e assises nationales de la médiation numérique en direct de l'espace événement Georges Frêche.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission en direct de l'espace événement Georges Frêche dans le cadre des 4e assises nationales de la médiation numérique. Une première émission afin d'évoquer les enjeux de cette édition 2016. Alors il y a autour de cette table plusieurs personnes, dont tout d'abord Sophie Pantel, la présidente de la Maison de l'Emploi et de la Cohésion Sociale de la Lozère et présidente du Conseil départemental. Sophie Pantel, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est bien parce que la Maison de l'Emploi et le Conseil départemental sont les deux co-organisateurs de l'événement, donc ça tombe bien que vous soyez avec nous aujourd'hui.
C'est avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup, nous aussi. À côté de vous, Frédéric Dumortier, le directeur de la Maison de l'Emploi. Bonjour Frédéric.
Et bonjour.
La cheville ouvrière de cette manifestation, Adeline Vitrolles, chargée de mission à la Maison de l'Emploi. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Ludovic.
Enfin également avec nous, Antoine Darod, le directeur de l'Agence du numérique. Bonjour.
Bonjour.
Et Auriane Ledroit, chargée de mission au sein du programme Société numérique au sein de l'Agence nationale. Bonjour.
Bonjour.
Et également Guillaume et Corentin à la technique avec nous, que l'on remercie. Alors on va rentrer directement dans le sujet avec le thème principal dont vont découler toute une série de colloques, de conférences, d'ateliers. Ce thème qui est le numérique au service de l'équilibre et du développement des territoires. Alors justement, Sophie Pantel, dites-nous, en tant que présidente du conseil départemental, en quoi le numérique peut servir à l'équilibre et au développement d'un territoire, qui plus est d'un territoire rural comme le département de la Lozère ?
Eh bien, le numérique, c'est évidemment un élément d'attractivité qui est très important pour tous les territoires. Et les territoires ruraux et territoires de montagne comme le nôtre ne font pas exception. Alors, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de répondre aux besoins des familles. Et vous savez que nous menons une politique de maintien et d'accueil de nouvelles populations. Donc, à travers les besoins des familles, il y a aussi des usages nouveaux que l'on ne mesure pas forcément aujourd'hui, mais qui demain seront incontournables si l'on veut pouvoir maintenir ces familles et puis répondre à cet enjeu démographique. Et puis il y a évidemment le côté un peu plus économique, et ça d'ores et déjà on le mesure, puisque dès qu'une entreprise est prospectée par Lozère Développement par exemple, ou lorsqu'elle vient sur le territoire, immédiatement les premières questions c'est: est-ce qu'il y a la fibre? Est-ce que le téléphone portable passe? Voilà, donc on voit bien que c'est absolument nécessaire. Après, moi, je dirais que pour des territoires ruraux et territoires de montagne, ça peut nous permettre d'accueillir finalement de nouveaux habitants avec de nouveaux métiers. Et on a quand même une sociologie avec des métiers un peu traditionnels qui relèvent de l'agriculture, du tourisme, on a de l'industrie, on a du commerce, etc. Mais je crois qu'on a du coup une vraie opportunité pour accueillir de nouveaux métiers. Et puis, je pense que ça va changer aussi les usages et la manière aussi de travailler, de consulter les citoyens et de travailler avec les associations. Et je prends l'exemple, par exemple, de ce qu'on a pu faire avec le travail sur le nouveau slogan de la Lozère, où on a utilisé uniquement le numérique pour à la fois avoir des propositions de slogans, mais aussi pour faire voter la population. Donc le numérique, aujourd'hui, c'est acquis. Hein, c'est plus une révolution. On disait toujours que la révolution était en marche. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un fait acquis. Et on a tout intérêt à se mettre en mouvement et non pas la subir, comme peuvent subir certains territoires, mais au contraire, en faire une force et un vrai élément d'attractivité. Pour autant, je pense que la question des usages et de l'égalité d'accès est peut-être un peu plus prégnant chez nous, puisqu'on a la question du déploiement, évidemment, de la fibre, puisqu'avant de parler d'usage, il faut quand même avoir le tuyau, si je peux me permettre de parler comme ça. Et vous savez que le département est engagé dans un plan très ambitieux, largement soutenu, Monsieur Darod est à ma droite, par l'Agence nationale du numérique, et on a eu l'occasion de se voir à Paris, donc soutenu par l'État, mais ça commence par là. Et puis nous, juste à titre d'exemple, au sein du département, ou dans des structures qui dépendent du département comme les collèges, on a mis en place des tablettes, on a tout dématérialisé. Voilà, je pourrais continuer encore des exemples comme ça qui sont nombreux, mais j'y reviendrai tout à l'heure éventuellement.
D'accord, oui. Au niveau des infrastructures, parce que ça va au-delà des infrastructures, bien entendu, dans cette compétition que se livrent les départements ruraux pour attirer de nouvelles populations, on ne peut pas se permettre finalement d'être à la traîne par rapport à nos voisins.
Non, et puis ce que je voulais quand même souligner, c'est qu'on part avec un handicap, puisque toutes les zones dites rentables sont aujourd'hui couvertes par des opérateurs nationaux qui viennent couvrir ces territoires, alors que dans des territoires comme les nôtres, hormis la communauté de communes Cœur de Lozère qui est autour de Mende, nous sommes quand même obligés, même si on a le soutien de l'État à 50%, d'avoir finalement une solidarité départementale et régionale, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les contribuables qui mettent la main au porte-monnaie pour avoir des services que d'autres ont ailleurs gratuitement. Voilà. Donc on voit bien qu'on ne part pas du même niveau, mais pour autant je pense qu'il faut, faut pas baisser les bras et c'est tout l'objet de notre plan qui se veut vraiment ambitieux pour aller beaucoup plus vite sur ce champ-là.
Voilà, c'est un des volets importants de votre mandature, on y reviendra tout à l'heure. Adeline Vitrolles, ce sont les assises de la médiation numérique. Est-ce qu'on pourrait expliquer en deux mots à nos auditeurs finalement qu'est-ce que la médiation numérique ?
Oui, alors en effet, Madame Sophie Pantel le disait à l'instant, le numérique revêt plusieurs facettes, et donc en effet celle de l'équipement en est une. Il y a également celle de l'économie numérique, donc plutôt le champ des entreprises, alors avec les dispositifs FrenchSec par exemple. Et puis il y a un troisième pilier dans le numérique, c'est celui de l'accompagnement des usages. Et l'idée c'est du coup de pouvoir travailler avec l'ensemble des professionnels qui vont accompagner les citoyens autour de ces outils et autour de ces équipements numériques. Et donc, c'est tout le champ que revêt la médiation numérique. Voilà. Donc, c'est les enjeux de cette édition des Assises 2016, de parler de l'accompagnement des usages.
Oui, Frédéric.
Juste pour rebondir sur les deux premières interventions, on va pas parler de compétition entre territoires, et surtout pas aujourd'hui, où on est aux Assises, où on veut parler de coopération, et qu'on va montrer effectivement comment nos territoires travaillent entre eux, et notamment grâce au numérique. Mais effectivement, pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, en Lozère, pour le coup, on n'a pas à rougir sur nos usages. Et effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, on a besoin de ces usages pour pouvoir rendre notre territoire plus agile. Et là, pour le coup, on est plutôt en avance, parce qu'effectivement, certainement, le territoire a été exigeant par rapport à ça, mais que ce soit à travers les maisons de services au public, à travers les associations, à travers la vie culturelle, à travers toutes nos pratiques, on a su utiliser et on va continuer à utiliser le numérique. C'est les enjeux de ces assises aussi, c'est de montrer à quel point le numérique est un vecteur de développement pour nos territoires, comment ça s'accompagne et comment effectivement cette transition numérique on l'accompagne, parce qu'on y est, la présidente l'a dit, il ne s'agit pas de savoir si le numérique sera ou sera pas, il y est. La question c'est comment on le vit, comment on le valorise et comment tout le monde y a accès. Il y a aussi une question bien sûr d'inclusion qui est à travers la question du numérique, comment tout le monde y a accès pour que ces fractures n'existent pas et qu'au contraire, encore une fois, la coopération puisse être au rendez-vous pour tous.
Voilà, parce que finalement, cette médiation numérique, la question autour de cette médiation numérique a évolué par le temps. On a commencé au départ avec l'accompagnement des personnes sur les usages du numérique, comme tu expliquais, sur l'accueil des personnes pour éviter ces fractures numériques. On pense notamment aux maisons
de service public.
Mais finalement, maintenant, avec l'émergence de nouvelles façons de travailler, de nouveaux outils, on se tourne plutôt vers la question du numérique dans ses différents usages, cette question de collaboration que tu expliquais à présent.
C'est ça. Alors, moi, je vais sûrement être moi déjà un peu has-been dans mon discours, parce que ça va tellement vite là que c'est compliqué. Mais ce qu'on a, nous, par exemple, accompagné pour l'illustrer, c'est la formation aux animateurs des maisons de services publics qu'on a appelée une formation 2.0. En gros, jusqu'à présent, effectivement, on était sur comment utiliser le portail de nos opérateurs pour pouvoir rendre cet accès aux droits. Donc ça, on sait faire. Sauf qu'on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant pour pouvoir être complètement intégré à la société. Il faut savoir maîtriser son identité numérique, il faut savoir utiliser les services, les réseaux sociaux, tous les outils de veille, et tout ça. Et du coup, là, le numérique, ce n'est pas simplement du descendant, mais c'est tout le monde qui contribue. Et c'est ça l'enjeu. C'est qu'on ne soit plus dans une société où on reçoit de l'information, mais on y contribue, on la génère, cette information, on la partage et on la rend plus dynamique.
Avant de passer à Antoine Darode, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, finalement, même les jeunes qui sont un public que l'on croit rompu aux ficelles du numérique ont besoin de cet accompagnement pour les réseaux sociaux, pour tous les dangers qui existent autour du numérique, pour leur...
Alors, si on ne se connaissait pas, je pense que tu ferais peut-être appel à ma deuxième casquette de directeur de la mission locale. Effectivement, nos jeunes, nos digital natifs, comme on imagine, qui sont tombés dedans tout petits, qui ils sont à l'aise avec ces usages. Eh bien, bien au contraire, on a effectivement une génération qu'on a présupposée étant agile avec les usages, et c'est effectivement pas du tout le cas, enfin pas du tout. Il y a certaines pratiques, mais notamment tout ce qui est lié sur l'accès aux droits, sur la maîtrise de son identité numérique, par exemple, il y a un vrai travail, un vrai besoin d'accompagnement, et aussi pour les jeunes, effectivement.
Si je peux me permettre, Ludovic, sur ce sujet, quand on remet les tablettes dans les établissements scolaires, dans nos collèges, moi j'insiste toujours, bon, d'abord leur rappeler que, évidemment, il y a leurs professeurs et que rien remplace quand même la relation humaine, que la tablette, ce n'est qu'un outil, et c'est un outil sur lequel il y a aussi des dangers, et donc sur lequel ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir finalement l'utiliser et que ce soit réellement un atout.
Alors, Antoine Darod, Axel Le Maire et Emmanuel Macron ont lancé en juin 2016 l'Agence du numérique. Peut-être pour commencer, nous expliquer les missions de cette agence.
Alors, comme vous le constatez, les territoires et les collectivités territoriales n'ont pas attendu que l'État initie un certain nombre de programmes pour avancer. Je dirais que l'État était plutôt en retard par rapport à cette prise de conscience des besoins de cette révolution numérique. Et effectivement a été lancée l'agence du numérique depuis l'automne 2015. Donc ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'on fonctionne, même si ça a été formellement lancé en juin dernier, avec trois grands axes. Un axe d'infrastructure, c'est le plan France très haut débit, qui vise à déployer des infrastructures très haut débit, donc plus de 30 mégabits par seconde, pour l'ensemble de la population, 100% de la population d'ici 2022. Alors ça peut paraître extrêmement loin, et en même temps, le temps des infrastructures est un temps qui est nécessairement long, c'est-à-dire qu'on ne déploie pas à la va-vite, c'est un réseau qui va durer plusieurs décennies, probablement même un siècle, et donc il faut correctement le construire, et ça prend du temps, alors que les usages sont en train de s'accélérer, et c'est cette différence qui parfois peut être compliquée. L'État va mobilise déjà plus de 3 milliards d'euros pour aider les collectivités territoriales à déployer des réseaux dans ces zones rurales, parce que le grand défi du plan France très haut débit, c'est que dans un temps similaire, le très haut débit se déploie à la fois dans les agglomérations et à la fois dans la ruralité. Quand on regarde un peu derrière, le réseau téléphonique, on avait la tonalité à Paris à la fin du 19e. Il a fallu attendre un siècle pour qu'on l'ait dans les campagnes. Le réseau électrique, même chose. On avait du courant électrique à Paris au début du siècle. Il a fallu là aussi attendre la fin des années 70 pour qu'on ait une électrification rurale à peu près complète. Là, le défi, c'est de dire non, on va le faire dans un même timing pour justement pouvoir développer des usages de la même manière dans les zones rurales et les zones urbaines. C'est le premier axe, les infrastructures. Et puis on a deux autres axes. D'abord, un axe plus économique de promotion et de soutien à l'écosystème des start-up. Ces start-up, c'est les jeunes pousses innovantes, les jeunes entreprises, alors qui parfois connaissent des grands succès, d'autres beaucoup moins. Mais peu importe, ça fait partie de la vie économique, de la nouvelle vie économique qui est permise par ce numérique. Et donc, on vise à promouvoir les écosystèmes de ces entreprises, à la fois dans les territoires et puis également promotion à l'international, parce qu'il faut regarder large et aller conquérir des marchés à l'extérieur. Et puis un troisième programme, alors qui est peut-être le plus embryonnaire, mais qui est probablement le plus puissant et qui est la lame de fond, qui est le programme qu'on a appelé Société numérique, qui vise à acculturer, à emmener l'ensemble de la population dans cette révolution numérique. Parce que les infrastructures, pardon, ce sont des natures mortes. Ça permet, c'est un potentiel, mais ça ne fait rien en tant que tel. Et donc, si on veut l'animer, leur donner un sens, leur donner une vie économique, citoyenne, humaine, il va falloir que les citoyens, les gens aillent dessus. Et c'est pas gagné. C'est a priori pas gagné. Il va falloir approprier les différents types de populations et pas uniquement en se concentrant sur ceux qu'on imagine a priori, c'est-à-dire les personnes âgées. Non. Même aujourd'hui, des cadres de 40 ans, en réalité, sont profondément incultes au numérique et ils doivent s'approprier cela. C'est d'autant plus important, et comme l'a souligné la présidente, c'est que il y a un risque, il y a des risques face à cette révolution numérique, des risques de peur, parce qu'effectivement, il y a quelques menaces, et donc il y a un risque de rejet d'une partie de la population. Et comme dans toute révolution, Il y a une menace d'avoir une fracture qui s'installe et d'avoir une partie de la population qui est rejetée. Donc c'est bien l'objectif de ce programme Société numérique, et on compte bien sur ces assises pour être un nouveau départ, une nouvelle ère une montée en puissance de la médiation numérique, bien évidemment toujours avec les collectivités. La méthode, le fonctionnement de l'Agence du numérique au niveau national, c'est de toujours s'appuyer sur les collectivités territoriales, sur des acteurs publics et privés, associatifs, entreprises et collectivités territoriales. Nous, on est là pour coordonner, soutenir, impulser, pas faire. On a, je dis souvent, le goût immodéré du faire-faire, mais parce qu'on se rend compte que les collectivités sont plus agiles pour répondre aux exigences d'adaptation de cette révolution numérique.
Vous êtes sur tous les fronts, en fait.
Oui, alors, et on les a un peu séquencés. C'est vrai que sur le très haut débit, c'est ce qui était le plus en avance dans les programmes de l'Agence du numérique. Hein, on a amélioré l'accès au très haut débit dans les dernières années. Alors, il reste la moitié du chemin à faire. On est à peu près à 50% aujourd'hui de territoire en très haut débit, et c'est le plus compliqué. Par exemple, dans le projet lausérien, qui représente plus de 50 millions d'investissements dans les prochains mois et prochaines années, l'État va consacrer 25 millions pour appuyer ce soutien. Mais encore une fois, c'est juste la première étape. Demain, le plus important, ce sera d'animer ces réseaux et d'emmener tout le monde sur ces réseaux. Et c'est un travail qui sera au moins aussi compliqué que de déployer les infrastructures.
Voilà. Mais avant d'animer, il faut avoir déjà les infrastructures. On parle de 2020. Sophie Pantel, pour la Lozère, une dernière tranche qui va démarrer en 2020, c'est à peu près ça ?
Alors, notre objectif, c'est évidemment de couvrir tout le département. Mais bon, pour des questions évidemment financières, on est obligé de phaser. Donc on a une première tranche qui s'arrêtera en 2020 dans l'hypothèse où c'est nous qui construisons tout le réseau, puisqu'en fait on part sur, alors je vais être peut-être un peu trop technique, mais sur une délégation de services publics à fermo concessive, c'est-à-dire à fermo, c'est lorsque le département construit l'affermage donc lui-même, et en concession, c'est lorsque c'est l'opérateur qui prend en charge la construction, avec évidemment une contrepartie financière donc de la part de la collectivité. Donc on sait que dans l'hypothèse de concession, les opérateurs vont plus vite, parce que bon, c'est aussi leur métier, ils ont parfois déjà des morceaux de réseau existants, donc ça permet d'aller plus vite. Donc ça veut dire qu'au plus tard, on attaquera la deuxième tranche. Mais je veux vraiment redire à tous les Lozériens que l'objectif, c'est bien de couvrir tout le monde.
Le numérique, Antoine Darod, crée beaucoup d'emplois en France ?
Alors, si on regarde juste les infrastructures, c'est 50 000 emplois qui vont être nécessaires pour déployer ce nouveau réseau, essentiellement en fibre optique, dans l'ensemble du territoire. Alors, ce n'est pas que de la création d'emplois, c'est aussi de la reconversion d'emplois. Il y a du BTP, il y a également de la reconversion, par exemple, dans les électriciens qui deviennent des soudeurs pour déployer cette fibre. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que ces métiers de la fibre, ce sont des métiers qui nécessitent, pour la plupart d'entre eux, des qualifications assez courtes. Et donc, en 6 mois, 12 mois, on arrive à avoir des qualifications adéquates pour déployer la fibre. Et donc, c'est un vrai gisement d'emploi pour des personnes qui peuvent être aujourd'hui un peu exclues du marché du travail, ou pour des jeunes. Et donc, l'ensemble des régions aujourd'hui, avec l'agence, se mobilise pour s'assurer qu'on ait bien les bons centres de formation au bon endroit et qu'on ne rate pas ce défi de l'emploi. C'est de l'emploi qui est non délocalisable. Hein. La fibre optique, il faut faire des tranchées, donc ça ne va pas se délocaliser en Chine. Il faut utiliser de la fibre, et il se trouve qu'en France, on a les trois plus grands fabricants de fibres européennes qui se trouvent sur notre territoire, notamment la coopérative ACOM en Bretagne, qui reste leader de la fibre optique.
Et concernant les métiers du numérique, proprement parlé, des startups, de tous ces métiers collaboratifs.
Alors après, la révolution numérique, elle irrigue l'ensemble de l'économie, donc c'est assez difficile d'identifier très clairement le nombre de créations d'emplois. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a également des destructions d'emplois qui sont liées à cette révolution numérique. C'est un mouvement, c'est une dynamique, donc il y aura de la destruction. L'important, c'est, comme le disait la présidente, de ne pas subir cette révolution numérique, mais bien d'être proactif pour pouvoir bien utiliser au maximum les opportunités. C'est clair que si on ne fait rien, ce sera plus destructeur d'emplois que créateur d'emplois. Et donc c'est là où il ne faut pas juste se contenter des infrastructures, mais il faut vraiment avoir une politique proactive, économique, sur ces nouvelles opportunités.
Et peut-être quand même rappeler que le département a été précurseur avec Pollen, qui est le pôle de l'économie numérique, bien avant, en fait, finalement, une appropriation par la société. Le département avait mis en place ce pôle et avait commencé à travailler à la fois sur les usages et sur l'attractivité économique.
On se situe où par rapport aux autres pays d'Amérique du Nord, d'Asie, concernant le numérique ? On sait qu'on est un peu en retard au niveau, par exemple, des startups par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays. On en est où, finalement, à l'heure actuelle ?
Très clairement, la France est, on peut la considérer encore en retard, mais elle est beaucoup moins qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'à la fois sur les infrastructures, quand on fait une comparaison européenne, on était très très loin au début de la décennie. Aujourd'hui, on revient dans le milieu du peloton. Et en tout cas, on a un plan qui a pour objectif, d'ici 2020, d'être de nouveau en tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un plan à l'économie de rafistolage. Ça a été vraiment une volonté, et c'est d'ailleurs le choix qu'a fait le département, de prendre la technologie la plus pérenne et la plus aboutie, hein, qui est la fibre optique jusqu'à l'abonné, pour pouvoir justement bénéficier de et donner à notre écosystème le meilleur terreau pour faire ce qu'il y a de mieux. En matière de start-up, hein, vis-à-vis de la French Tech, on voit bien que et c'est pas que l'initiative de l'État, hein, c'est bien les entrepreneurs qui se sont reconnus au travers de cette marque, de ce label, et qui se sont réunis leurs forces pour pouvoir aller nouer des liens, pour aller chasser en meute à l'étranger. Et aujourd'hui, quand on voit les grandes levées de fonds, c'est-à-dire les grands investissements qui peuvent être faits dans les startups françaises, on n'a pas du tout à en rougir. On est dans le top 10 mondial, alors qu'il y a quelques années, on était encore invisible sur la scène internationale.
Alors vous parliez tout à l'heure du programme Société Numérique. On a justement Auriane Ledroit qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce programme ?
Alors, comme l'a dit Antoine Darotte précédemment, l'idée, c'est vraiment de faire monter en compétences numériques l'intégralité de la population et permettre à chacun de saisir les leviers et les opportunités qui sont liées au numérique. C'est un programme qui s'est construit progressivement sur la base d'un diagnostic avec les acteurs notamment engagés sur les territoires en faveur de la médiation numérique. C'est un programme qui se construit avec ses acteurs, avec les collectivités, locales engagées. L'idée, c'est de travailler à accompagner la mise en place de stratégies et de dispositifs cohérents sur les usages numériques en lien avec vraiment l'appropriation de l'outil sur trois leviers. Le premier levier, c'est les compétences de base, donc c'est l'appropriation aux démarches en ligne, administratives et fiscales en ligne par exemple, c'est vraiment l'utilisation de l'outil informatique. Le deuxième levier, ça va être des compétences un peu plus poussées sur la communication sur les réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet pour les recherches sur le web, pour des recherches documentaires, etc. Et puis le troisième levier, qui est un levier d'ambition, qui est l'appropriation de la culture de l'innovation, qui va aller sur l'appropriation, par exemple, de l'impression numérique, des outils qu'on peut trouver dans les Fab Labs, dans des tiers-lieux un peu innovants, les logiques de coworking, etc. C'est ces trois leviers qui doivent être activés en même temps, en fonction des besoins de la population, en fonction des spécificités des acteurs de la médiation numérique dans les territoires qui identifient les attentes et les besoins, et qui doivent être activés en même temps en fonction des attentes. Nous, on est vraiment sur une logique du faire avec et du faire si besoin, et d'accompagner cette stratégie cohérente sur ces trois leviers-là.
D'accord. Vous parliez d'attentes, justement, Antoine Darotte. Quelles sont vos attentes, vous, par rapport à ces assises nationales du numérique, si vous en avez ? J'imagine que vous en avez.
Oui, bien évidemment. C'est vrai qu'on a mis un peu de temps dans la création de l'agence à faire ce diagnostic, à se réapproprier, y compris personnellement, hein, se réapproprier ce besoin et cet écosystème de la médiation numérique. Si j'avais un vœu, c'est celui effectivement que ce soit que Mende soit un point de départ d'une nouvelle dynamique. C'est pas pour rejeter ce qui a été fait par le passé, mais je pense que c'est en s'appuyant justement sur toutes les initiatives d'initiatives passées, qu'on ait un mouvement beaucoup plus massif. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec l'accélération de la dématérialisation des services au public, où vous ne pouvez plus aller demain aller faire votre permis de conduire à la préfecture, où vous ne pouvez plus aller à Pôle emploi. Il y a certaines formalités qui doivent se faire uniquement sur Internet. S'il y a une urgence absolue à ce qu'on puisse offrir à tous les citoyens un accompagnement vers ces nouveaux usages. Et donc, il faut changer d'échelle, il faut probablement s'ouvrir, il faut systématiser, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques un peu partout, maintenant, il faut les généraliser, c'est-à-dire que, et c'est très bien, et c'est exactement la méthode qu'on retient à l'agence, c'est de partager les bonnes pratiques pour les généraliser. Quand il y a un territoire qui a une bonne idée et un bon truc, et ben, il faut que ça se généralise au niveau national. Il faudra probablement une meilleure coordination nationale, et ça, on peut y contribuer, on peut l'appuyer. Il faudra du financement également, et là aussi, on peut espérer qu'à Bercy, on ait quelques leviers pour faire en sorte que les administrations, mais également les entreprises, et puis les collectivités, on l'espère, si elles le peuvent encore, contribuent encore sur cet accompagnement. Après, je pense que pour nous, ce qui est très important, c'est d'être complètement orienté, focus sur l'usager final. Et que tout doit se faire par rapport à l'usager final et pas dans une démarche uniquement passive et consumériste. Il faut bien faire comprendre à tous les auditeurs que la France réussira la révolution numérique, ce ne sera pas du fait de l'État, des collectivités. OK, ils peuvent faire un peu, on peut préparer le terrain, mais c'est que si les citoyens et chacun d'entre nous, on prend conscience de cette révolution numérique et on agit différemment par rapport à cette révolution numérique. Et c'est vraiment ça l'acculturation. Il faut que chaque auditeur, là, derrière son poste, puisse se dire comment je peux contribuer à cette révolution numérique, à faire en sorte que mon pays bascule dans cette révolution numérique. Ça demande de changer des habitudes, ça demande d'oser un peu, de prendre un peu des risques, ça demande d'aller s'ouvrir vers ces lieux de médiation numérique aussi. Mais c'est comme ça qu'on réussira, ça ne viendra pas d'en haut, comme ça a été dit tout à l'heure, ça viendra d'en bas et ça demande une vraie révolution fondamentale.
Très bien, Frédéric Dumortier, ce sont vos objectifs pour ces 4e assises nationales du numérique ?
Grosse responsabilité quand même. Déjà, juste accueillir les 4e assises, c'était pas évident comme défi. Là, on y est. Je crois qu'on a tout mis en place pour que ça se passe bien. Effectivement, maintenant, on aura vraiment réussi si le fond est accompagne la forme. Oui, l'objectif d'ouverture. Je crois que... on le disait avec la présidente en conférence de presse il n'y a pas très longtemps... On les espère être les assises de la maturité. Effectivement, un point de départ. Alors, il y a eu avant, il y a eu après, j'en sais rien. Peut-être que l'histoire nous le dira. Hein, mais il y a vraiment cette idée qu'on arrive là à un niveau où les acteurs, les espaces se rendent compte de la responsabilité qu'on a sur cet accompagnement-là et qu'effectivement, on l'assume. Et qu'on l'assume avec toutes les constructions et les difficultés qui font partie de cet accompagnement. On a parlé un petit peu argent et on va pas s'étendre sur ce sujet, mais on fera pas tout ça qu'avec des bénévoles. Donc il y a effectivement besoin de soutenir les acteurs de la médiation numérique, mais qu'eux aussi, et c'est pour ça qu'on est là, qu'on trouve notre place, qu'on l'assume et qu'en responsabilité, on dise, c'est sur ça qu'il faut aller, parce qu'on sent des choses, on voit les choses, et c'est effectivement les acteurs de terrain qui le font. Et les assises, c'est ces échanges-là. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir, chaque territoire va pouvoir amener ce qu'il fait, échanger. C'est cette ouverture-là qui va faire que finalement, on sera bon, et de montrer qu'effectivement, les territoires vont bénéficier tous ensemble. On va repartir dans nos territoires en se disant, on a vu ça, chacun l'adaptera à son propre territoire, mais on va construire quelque chose effectivement, et si on arrive à structurer vraiment un réseau national, je crois que l'objectif là des assises sera abouti. On a un objectif ultime et qui se passera vendredi, c'est qu'effectivement cette acculturation on puisse la faire partager avec tous. Là pendant 2 jours on est entre professionnels, entre acteurs de la médiation, donc on va travailler, et puis vendredi c'est l'idée de le montrer, à tous la médiation numérique, qu'est-ce qu'on peut faire, et de donner envie effectivement à cette question du numérique. Donc on attend tout le monde, c'est ouvert au grand public le vendredi, donc là, double défi, qu'on puisse sortir avec des pistes de travail sur le long terme, et qu'on puisse, là pour le coup, pour les Lozériens et les Lozériennes, alors vous pouvez venir aussi, les voisins, départements, mais au moins pour les gens de proximité, qui puissent venir vivre la médiation numérique. Et la prairie des innovations, c'est ça. On s'était dit, faut pas qu'on fasse que parler de la médiation numérique, il faut qu'on la fasse vivre. Il faut que les gens le touchent et pratiquent pour voir effectivement qu'est-ce que c'est que cette révolution. Et donc voilà, c'est ce double défi.
Alors avant de laisser la présidente conclure cette émission qui se termine, Adeline Vitrolles, un point sur le programme de cet après-midi, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver.
Alors cet après-midi, on ouvre ces quatrièmes assises à 14h avec un mot d'introduction et puis une plénière d'ouverture transversale sur la question de la médiation numérique justement et des territoires avec trois intervenants sur ce temps-là d'échange qu'on retrouvera d'ailleurs ce soir dans l'émission de 48FM à 18h. Et puis on attaque sur un moment d'échange entre professionnels de réseau. Un autre enjeu aussi, c'est celui de faire se croiser des réseaux de professionnels qui jusqu'à maintenant travaillent la question de la médiation numérique sous des angles à chaque fois un petit peu différents. Et un des enjeux aussi de cette édition, c'est de se faire parler ces réseaux-là entre eux. Par exemple, je pense au réseau du développement économique. On a un parcours spécifique sur les croisements médiation numérique et développement économique demain. Les réseaux de l'éducation, de la formation. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de se faire rencontrer des réseaux de professionnels entre eux. Et ça commence ce soir à partir de 16h, où du coup, on a déjà au programme des ateliers spécifiques de programmés.
Très bien. Sophie Pantel, pour conclure.
Alors, je ne vais pas conclure puisque c'est l'ouverture de ces assises, mais
cette émission
peut-être, voilà, pour l'émission. Mais peut-être que simplement dire que ce qui est vraiment important, c'est l'appropriation par le grand public et que le grand public comprenne bien ce que sont ces assises nationales de la médiation numérique. Et je crois que le citoyen, aujourd'hui, doit être... Alors, il est usager et parfois, il faut qu'on l'accompagne dans les maisons de services publics, etc. Mais il doit être surtout acteur et je rejoins tout ce qu'a pu dire M. Tarode là-dessus. Et puis moi, je suis ravie vraiment de... On joue un peu dans la cour des grands, hein, c'est ce qu'on se disait avec Frédéric, parce qu'après Caen, Bordeaux, et je crois que la prochaine fois, c'est Marseille qui est envisagée. Donc voilà, au milieu, Mende qui pourrait être le tournant finalement et un nouveau départ, en tout cas pour le réseau des acteurs professionnels. Donc moi, je ne peux qu'inviter les Lozériens à venir nous rejoindre vendredi, remercier tous ceux qui ont permis que ces assises se tiennent en Lozère et en particulier à Mende. Et puis, vous dire très bons travaux. Et beaucoup de réflexions, d'échanges et de convivialité, mais j'en doute pas.
Merci beaucoup Antoine Darode, Auriane Ledroit, merci beaucoup aussi d'avoir participé à ce plateau radio. On se retrouve donc à 18h avec le thème de la médiation numérique au service du développement des territoires. Allez, on rend l'antenne.